France Inter, le 18-20.
Il faut que tout change pour que rien ne change, disait Tancrède Alain Delon dans Le Guépard. Eh bien Tancrède, Emmanuel Macron change beaucoup de tête finalement, mais il ne change rien sur le fond de sa politique. C'est ce qui ressort de ce remaniement qu'on a tant attendu, qu'on aurait pu croire à un bouleversement à venir. Au lieu de ça, on cite aussi beaucoup Shakespeare depuis ce matin, beaucoup de bruit pour rien. Un nouveau vent doit souffler, avait dit Richard Ferrand, et le tangage de l'opinion, les doutes. Emmanuel Macron ne peut pas ne pas les avoir sentis avec cette équipe qui laisse intacte les équilibres antérieurs. Il joue un peu plus la politique, mais toujours beaucoup la technicité. Pas de vue à la télé non plus, j'y mets des guillemets. Le président Macron, pour les uns, reste droit dans ses bottes afin de poursuivre une politique qui portera ses fruits. Pour les autres, il s'acharne dans un modèle qui n'a pas fait ses preuves. Le Nouveau Monde a fait long feu. Emmanuel Macron a compris, en tout cas, qu'il ne pouvait pas être silencieux, qu'il ne pouvait plus être silencieux. On a appris il y a quelques heures qu'il allait parler juste après nous au téléphone sonne, et c'est bien aimable de sa part. Une allocution toute chaîne confondu, on verra si c'est une bonne idée sur la forme en tout cas, avant de l'entendre sur le fond. Un président en tout cas qui semble seul capable de relancer une machine en marche qui avance un peu en crabe en ce moment, ou pas d'ailleurs, c'est à vous de nous le dire, et ça se passe comme tous les soirs au 01 45 24 7000.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Guy, bonsoir, c'est vous le
oui,
premier.
Oui, bonsoir.
Et bonsoir à vous.
Merci pour vos émissions, très très bonnes, que j'aime bien. Je résume un peu Le Guépard, Shakespeare, c'est vrai, tout ça pour ça. Et en fait, l'allocution de Monsieur Macron, ben on va l'attendre encore un petit peu. Vous savez qu'est-ce que c'est, quelques minutes de plus. Tout ça, pour ça, c'est-à-dire pour pas grand-chose. Moi, j'ai 75 ans, retraité, et je m'aperçois que la vie politique a été une alternance de, disons, d'annonces sensationnelles, du nouveau gouvernement, mais rien ne change. Voilà. Et je voulais savoir si on ne peut pas réduire le mandat, les mandats, disons, pas le mandat, mais disons la nomination des ministres, les souder un peu plus au gouvernement pour que ça s'arrête, ça. Parce qu'on sait très bien, par exemple, que c'est les chefs de cabinet, les conseillers qui font beaucoup le travail du ministre. Lui, il est là, effectivement, pour représenter la politique du président. Mais je voudrais savoir si on peut pas un peu, je sais pas moi, pas faire ce déballage là de suspense, de faux suspense, 15 jours, c'était
c'est que, Guy, que je comprenne, vous voulez pas de remaniement du tout, parce qu'au fond vous dites ça sert à rien, ou est-ce que vous voulez qu'on oblige un président à le faire en 2 jours, comme ça c'est plus vite plié?
Par exemple, ça serait une très bonne solution, mais si le remaniement il en faut, parce qu'il y a quand même des affaires qui sortent de temps en temps, et malheureusement, ou heureusement, il faut que les ministres quittent leur fonction. Mais des grands déballages comme ça, non, ça fait 15 jours que ça dure. Bon, l'État continue, hein, puisque les directeurs de cabinet sont à leur poste, ça change rien du tout. Alors comme vous dites, peut-être 2 jours, ça irait quand même plus vite, il faut arrêter ce faux suspense.
On a bien compris, Guy, où vous nous emmeniez, et merci pour votre question et merci pour cette entrée en matière du téléphone sonne pour dialoguer avec vous et avec vous tous d'ailleurs jusqu'à 20h ce soir. Françoise Fraisseau-Zella, bonsoir, éditorialiste au Monde. Jérôme Jaffray également, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, et puis Yael Gauz également, chef du service politique de France Inter. On va essayer de prendre les questions de Guy dans l'ordre. Le côté finalement, Françoise Fraisseau, tout ça pour ça, il s'est pas passé grand chose. Effectivement, on a attendu 15 jours pour pas grand-chose, c'est assez juste.
Oui, c'est assez juste, mais il faut revoir le film, c'est-à-dire que la démission de Gérard Collomb s'est imposée au président de la République. Autrement dit, le président de la République a été placé sur la défensive par la décision d'un de ses ministres, qui était quand même ministre d'État, de quitter le gouvernement.
Donc remaniement subi, en fait, par Macron.
Remaniement subi. Donc après, il y a eu des discussions pour savoir est-ce qu'on allait faire un petit remplacement ou un gros remaniement, et on a assisté, mardi dernier, à une confrontation entre le président de la République et le Premier ministre, très intéressante. Parce que normalement le remaniement aurait dû avoir lieu la semaine dernière, et au fond il a été repoussé d'une semaine parce que les équilibres politiques ne convenaient pas à Emmanuel Macron. Je pense que la difficulté de composer l'équipe qui est sortie ce matin tient au fait que Emmanuel Macron a composé au moment de son élection une majorité entièrement nouvelle qui tient sur en même temps, et de droite et de gauche. Et qu'à partir du moment où vous bougez quelques pions, il faut pour pouvoir rester sur la même majorité présidentielle, composer, c'est-à-dire prendre un peu de gauche, un peu de droite, un peu de centre, et recomposer tout ça. Ça prend beaucoup de temps, puisque il y a quand même 8 entrants dans ce gouvernement. Donc ça prend du temps. Et alors c'est vrai que l'image, ça donne un peu... le temps long de la 4ème République, des choses qui se mettent mal en place. Mais...
D'autant que le nom de Castaner, Françoise, était sorti très très vite. Donc,
bah oui, mais il était, excusez-moi, il est sorti très vite, sauf qu'il y avait quand même une contre-offensive d'une partie de la majorité qui disait Castaner, ça ne représente pas suffisamment l'attente sécuritaire des Français. Et donc, vous avez entendu d'autres noms, vous avez entendu Pechenard, vous avez entendu Darmanin. Donc, il y a eu de vraies discussions entre les deux têtes de l'exécutif. On n'est pas au courant de tout, mais il y a eu franchement des explications. D'où l'idée que ça dure et l'idée que les Français peuvent être un peu énervés par ce temps. Et en même temps, comme le dit l'auditeur, l'État continue de fonctionner, on ne peut rien reprocher. Édouard Philippe s'est rendu au chevet des victimes des inondations. Il a assumé le poste de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur. Donc la République n'était pas en danger. Mais c'est vrai que ça a traîné. Et du coup, l'impression qu'on a, c'est tout ça pour ça.
Jérôme Jaffray, ce que dit Françoise Fressos va dans le sens de ce que nous dit Alexandre. Macron voulait tirer sur sa gauche, Édouard Philippe voulait tirer sur sa droite. Ne cherche-t-il pas un gouvernement comme celui d'Allemagne? Avant la dernière partie de la question, ce tiraillement entre la gauche et la droite, ça donne finalement quelque chose de plus politique quand même que technique dans ce remaniement-là.
Moi, je dirais, dans la continuité un peu de ce que vient de dire Françoise Fressos, que ce qui est important dans le remaniement, c'est ce qui ne s'est pas produit, d'une certaine façon. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu de mouvement vers la droite du gouvernement, car à un moment, effectivement, imaginez que le ministère de l'Intérieur ait été confié à quelqu'un comme Jean Castex, dont on a parlé, qui était très lié à Nicolas Sarkozy ou aux Républicains, ou Frédéric Pechenard, très proche de Nicolas Sarkozy. Nous aurions eu le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre des Comptes Publics, le ministre de l'Intérieur, venant des Républicains. Donc, il y aurait une droitisation absolue, ça ne s'est pas produit, c'est donc une information extrêmement importante. Deuxième chose qui ne s'est pas produite et qui là est quelque chose qui peut être très important pour la suite des opérations, c'est le renforcement d'Édouard Philippe, Premier ministre, dans cette affaire. On attendait éventuellement qu'il soit renommé dans ses fonctions, ce qui est toujours quelque chose d'important parce que ça engage la suite des opérations de la part du président, et qu'il aille faire une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale avec un vote de confiance. Édouard Philippe n'a rien disposé de tout cela. Finalement, il est certes, il continue, mais il continue sans renomination, et donc probablement le président a estimé que le fait d'annoncer partout que ce remaniement signifiait le renforcement d'Édouard Philippe n'était pas tout à fait le message que Emmanuel Macron souhaitait que les Français entendent. Donc, c'est ce qui ne s'est pas passé est, me semble-t-il, plus important que ce qui s'est passé, et du coup, nous n'avons pas perdu 15 jours.
Et du coup, c'est une sorte de correction qu'il faut dire officiellement, et c'est pour ça qu'il parle tout à l'heure, Emmanuel Macron, Yael Gauz, selon vous.
Et pour imprimer sa marque, c'est-à-dire que là, ils l'auront avec la pratique, normalement, c'est le Premier ministre qui vient présenter dans un discours de politique générale devant les parlementaires la philosophie, le sens de la nouvelle équipe du remaniement. Souvenez-vous quand même d'un Manuel Valls nommé par François Hollande. Après un virage de l'offre, on changeait de politique, et là pour le coup il fallait l'incarner, le dire et avoir un vote de confiance. Là, c'est Emmanuel Macron qui tient la plume finalement et qui vient à 20h faire une allocution solennelle pour dire c'est mon remaniement, c'est moi, c'est mon territoire, c'est moi qui ai voulu ces équilibres-là. Sauf que comme disait Jérôme Jaffray, les 15 jours qui se sont écoulés, ce sont les coulisses qui sont intéressantes de ces 15 jours. Pourquoi autant de temps? C'est bien que derrière, il y a donc des problèmes politiques. François Bayrou, le MoDem aussi, qui a mis son grain de sel et empêché certains mouvements. Édouard Philippe qui pesait pour placer ses hommes. Emmanuel Macron qui résistait. Tout ça dit beaucoup de choses aussi du vivier qui s'est tari. Vous avez vu quand même, le quinquennat, il a commencé avec des stars, on va dire, de la politique, hein, avec des paillettes un peu. François Bayrou, Gérard Collomb, Nicolas Hulot, qui avait des caractères bien trempés. Et on arrive à la fin à quelque chose d'assez gris, d'assez terne, où finalement, ça ne remet en rien les compétences des gens qui sont nommés, hein. Mais ça ne dit plus qu'Emmanuel Macron est attractif pour le vivier politique.
Et d'ailleurs, est-ce que ça suffit à renouer des fils? Alors, il y aura effectivement cette déclaration, Françoise Fressos, tout à l'heure à 20h, mais est-ce qu'avec une annonce comme celle-là, avec un gouvernement comme celui-ci, est-ce qu'on renoue les fils qui ont été déliés ces dernières semaines?
Je pense que là encore, il faut regarder d'assez près. Je pense que l'une des ambitions du remaniement et l'une des exigences de la période, c'est de renouer le contact avec les élus locaux. On a vu, par exemple, sur la taxe d'habitation, un nouveau bras de fer entre le gouvernement qui dit « je vais supprimer la taxe d'habitation d'ici la fin du quinquennat » et on s'aperçoit que certains maires ont augmenté les taux, donc le message est entièrement brouillé et on a l'impression que ce sont deux planètes qui ne se parlent plus. Vous avez un gouvernement centralisé et des élus locaux. Or, on a les élections municipales en 2020. Si Emmanuel Macron ne parvient pas à renouer le contact avec les élus locaux, il n'arrivera pas à implanter sur le territoire La République En Marche. Donc, vraiment, l'une des finalités du remaniement, c'est d'essayer de retisser le lien. Et pour cela, il s'appuie sur deux centristes. D'abord Jacqueline Gourault, qui va devenir une grande ministre de la cohésion du territoire, avec deux ministres sous ses ordres. Et puis vous avez aussi Marc Fesneau, qui rentre ministre des Relations avec le Parlement. Alors lui, c'est un centriste. Et donc, on confie le poste des Relations avec le Parlement, non pas à une personnalité de La République En Marche, mais à un centriste, c'est-à-dire à un partenaire de la majorité. Et je pense que le message, c'est de dire on va continuer la même politique, mais avec davantage d'écoute, et La République En Marche ne représente pas l'ensemble du macronisme. Et donc, s'il y a une véritable inflexion dans la pratique, on pourra dire que ce remaniement a servi à quelque chose. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu principal, avec l'autre idée de dire on ne change pas parce que c'est pas le moment et que Emmanuel Macron n'a pas envie d'infléchir sa politique parce qu'il estime qu'il est sur les bons rails.
Jérôme Jaffray, est-ce que c'est la meilleure manière, cette intervention d'Emmanuel Macron qui va avoir lieu dans un instant? Parce que pour le coup, on est toujours dans cette image de tous derrière et lui devant. Il le fait en faisant une déclaration solennelle devant tout le monde. Pardon, ça fait très ORTF finalement cette manière de faire, non?
Oui, je pense que pour nos auditeurs, vous nous ramenez bien loin en arrière. Que le président intervienne, c'était nécessaire et c'est ahurissant qu'il ne l'ait pas fait depuis si longtemps. Et là où vous avez, je crois, raison, c'est est-ce que c'est le bon soir pour le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Le président, oui, devait intervenir et s'expliquer, mettre fin à une séquence qui a trop duré pour lui et duré plusieurs mois et vraiment pénible avec beaucoup de problèmes. Mais du coup, en parlant ce soir, d'abord, nos concitoyens sont sur le problème de l'Aude, où le président n'est pas encore allé. Pour eux, c'est quelque chose de bouleversant. Ils sont beaucoup plus sur les problèmes de taxes d'habitation, comme vous l'avez dit, que sur les questions concernant le remaniement et la composition du gouvernement. Ensuite, le problème fondamental, c'est de dire, pour Macron ce soir, me semble-t-il, et je prends ce risque, mais il est limité, vous verrez, c'est on a un nouveau souffle. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un nouveau souffle sans changer du tout de cap? Ça, c'est voilà la colle de l'intervention, je dirais, si j'avais à examiner le discours que fera le président. Voilà, nouveau souffle sans changement de cap. Pour les Français, il faudrait faire des inflexions pour que le nouveau souffle existe, parce que sinon, c'est pas dans la liste du remaniement que vous allez trouver cette idée du nouveau souffle.
Mais est-ce que c'est pas dans le style, le nouveau souffle que cherchent les gens? Parce que ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, c'était ça. C'était un style Macron qui était remis en cause, une arrogance,
entièrement
etc.
Raison. Vous avez entièrement raison. Et du coup, ça conforte bien que c'est pas le soir du remaniement que la question du style Macron va pouvoir être modifiée pour les Français. Donc, je n'aurais pas forcément parlé ce soir à la place du président. Mais enfin, c'est lui qui décide à première vue.
Mais apparemment, il le fera quand même, malgré vos conseils, Yael Gauze.
C'est surtout pour parler 4 minutes. Pardon, mais 4 minutes enregistrées, c'est extrêmement court pour
il paraît que
donner
c'est 12,
du sens.
On me dit
c'est rallongé à 12,
c'est 12.
C'était 4 initialement.
Ah ben voilà,
c'est 12 maintenant,
12
minutes.
Ouais.
Ah ben il peut dire plus de choses. Mais c'est quand même trop court pour revenir sur, pour solder cette rentrée où plein de problèmes politiques sont apparus chez lui. C'est trop court pour revenir aussi sur cette affaire Benalla. Il n'a toujours pas fait l'interview de la rentrée qui permettait de comprendre
c'est bien ça le manque. Effectivement, c'est répond à des questions maintenant.
Et c'est
président
Macron, c'est pupitre présidentiel. Il n'y a pas de questionnement derrière. C'est face caméra, extrêmement classique. Ça ne suffira pas, en tout cas, pour expliquer ce nouveau souffle. Et d'autant que son message, il le brouille lui-même, pour la raison simple que le remaniement n'incarne pas ce second souffle. La politique menée, dit l'Élysée et insiste, reste la même. Le cap a été fixé au congrès de Versailles, discours du 9 juillet dernier. Donc là-dessus, il y a un paradoxe. Et la bande-annonce du remaniement et du sens du remaniement il y a 8 jours par ses proches, Richard Ferrand en tête dans le journal du dimanche, est contradictoire aujourd'hui avec le résultat.
Souffle, c'est lui.
Voilà, mais le résultat ne correspond pas à la bande-annonce.
Zachary, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de te retrouver, Zachary. C'est notre auditeur fétiche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Bonsoir.
Donc, Emmanuel Macron a placé un ministère de l'Intérieur assez bicéphale parce qu'il y a d'une part Laurent Nunier qui est assez technique avec ses sécurités défense et de l'autre Christophe Castaner qui, lui, du coup, serait le pied politique de La République En Marche. Place Beauvau, est-ce que ça montre pas que, justement, il veut garder ce pied politique avec sa carte électorale, Emmanuel Macron? Et peut-être en miroir, peut-être un désaveu des compétences de Christophe Castaner qui aurait besoin d'un appui pour le ministère de l'Intérieur.
D'un vrai appui technique, donc Françoise Fressoz, est-ce que c'est comme ça qu'il faut lire ce ministère bicéphale?
Oui, alors je pense que la personnalité Castaner, c'est très important. Donc c'est un ministre issu des rangs de la gauche qui reste ministre de l'Intérieur. Ça a été en débat parce qu'une partie du gouvernement, les ministres de droite notamment, plaidaient pour une incarnation plutôt de droite et incarnant vraiment, si vous voulez, le besoin de sécurité des Français. Et beaucoup disent, regardez les sondages d'opinion, regardez avant les européennes, la sécurité arrive quand même en tête des préoccupations et il faut une personnalité qui incarne. Donc, pendant 15 jours, le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République ont cherché cette personnalité qui était capable d'incarner cette attente sécuritaire. Et en fait, c'est un couple qui émerge. C'est effectivement Castaner. Pourquoi? Parce que c'est un proche du président de la République, un homme de confiance, un homme venu de la gauche. Et puis, il est flanqué, effectivement, de Monsieur Laurent Nunez, qui, lui, est vraiment connaît la police, la gendarmerie, est adepte du renseignement. Et donc,
La DGSI, hein, son poste précédent, c'est la DGSI. Est-ce que je me trompe?
C'est ça, lutte antiterroriste.
Voilà, la lutte antiterroriste. Et donc, lui, il apporte, si vous voulez, tout ça. Mais il a fallu construire ce couple, effectivement, pour arrimer. Et c'est vraiment, je pense que c'est un des aspects sur lequel a buté le gouvernement, c'était est-ce qu'à la veille des élections européennes qui sont quand même dominées par cet affrontement progressiste conservateur, où Marine Le Pen a commencé à mettre vraiment le projecteur sur la sécurité, est-ce que Castaner était la bonne personne au bon endroit? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent.
Et vous remarquerez qu'il n'est plus ministre d'État, le ministre de l'Intérieur. Il n'y en a plus qu'un, c'est François de Rugy à la transition écologique. Donc ministre d'État, ce n'est plus à l'intérieur qu'on le trouve. Castaner voulait ce poste, mais il y avait quand même dans les coulisses, dans ce qui se n'est pas fait, c'est toujours intéressant de voir ce qui n'a pas eu lieu, Jean-Yves Le Drian, qui était extrêmement approché pour ce poste-là, mais qui n'a pas voulu.
Et qui n'a pas voulu.
Jérôme Jaffray, vous vouliez intervenir.
Oui, la question, on cherchait un Blanquer de l'Intérieur, c'était la fameuse formule qu'on a employée. Alors, on a ce ministère bicéphale où Laurent Nunez ne me paraît pas voué à jouer ce rôle de Blanquer de l'Intérieur, car l'extraordinaire talent de Jean-Michel Blanquer, c'est sa capacité d'expression, d'intervention permanente. Je l'entendais encore expliquer sur les évaluations qui sont extrêmement mauvaises, qui viennent d'être faites, qu'il faut retrousser nos manches et que c'est une aide aux enseignants pour savoir comment faire bouger les choses et pas du tout, on n'évalue pas pour évaluer ou pour se punir, on évalue pour progresser. C'est-à-dire un talent de dynamique et de positif qui est extrême. Mais là, Laurent Nunez ne va pratiquement pas s'exprimer. C'est en permanence Castaner qui, en tant que ministre de l'Intérieur, et il a commencé dès aujourd'hui en allant au Lila, parler, et je voyais sur les images de télévision Laurent Nunez de 2 mètres derrière, qui lui ne disait pas un mot. Donc ça va pas très bien fonctionner. J'ajoute qu'en plus le problème de ce remaniement, c'est à nouveau la faiblesse en personnel politique d'En Marche, car il faut donc enlever le responsable du mouvement politique La République En Marche, car on, quand même, nous ne sommes plus au Second Empire, on ne va pas cumuler la fonction de ministre de l'Intérieur et la fonction de chef du parti majoritaire.
Surtout quand on découpe la carte, qu'on peut le faire dans son intérêt.
Je vous rappellerai quand même que maintenant, la Constitution, dans sa révision de 2008, prévoit une commission indépendante pour faire le travail de découpage électoral sous le contrôle du Conseil d'État, puis du Conseil constitutionnel. On n'a donc plus les mêmes facilités qu'on avait, effectivement, il y a 30 ou 40 ans.
Mais patouiller.
On peut plus faire un peu, effectivement, si les choses vont dans ce sens. Mais donc, on voit bien qu'on déshabille. Dernière chose que je voulais quand même dire, c'est sur le MoDem. C'est intéressant, cette affaire du MoDem. Parce qu'on transfère sur le MoDem deux des principaux problèmes du macronisme. Ça, c'est merveilleux quand même. Ça n'est plus chez En Marche. La relation avec les élus, c'est Madame Gouraud, du MoDem, une très proche de Bayrou. Donc, si ça continue de pas marcher, c'est le MoDem et c'est l'équipe Bayrou qui ne marche pas. Et Monsieur Fesneau, ça, c'est la première fois que je vois ça.
Pour la relation avec le Parlement.
Relation avec le Parlement. Pour le petit groupe minoritaire au sein de la majorité, alors que c'est d'habitude le chef du groupe majoritaire, enfin, qui est, enfin, représentant du groupe majoritaire et ministre des Relations avec le Parlement, ça, c'est toujours fait comme ça. Là, c'est donc, et donc, s'il y a des problèmes avec le Parlement, ah, ben, c'est l'équipe Bayrou également qui échoue lamentablement. Non, il y a beaucoup de choses dans ce remaniement.
Jusqu'à quel point c'est ennuyeux, Françoise Fressos, que, en effet, c'est ce que disait Jérôme Jaffré, La République En Marche soit un peu asséchée, si je puis dire, en fait. On manque terriblement de candidats à la dernière.
Je pense que c'est à mon avis, c'est vraiment le challenge d'Emmanuel Macron. Il a quand même renversé le système politique lors de la dernière présidentielle, un système politique qui était assez en mauvais état. Donc il le renverse et il fait émerger un parti En Marche. On voit que quelques-uns au Parlement ont quand même réussi à se faire un nom et sont même heureux. Mmh. La grande majorité est assez malheureuse. On ne compte pas, on ne sait pas comment faire. Sur les territoires, je pense que c'est encore pire, c'est-à-dire que vous avez des territoires où le mouvement En Marche n'a plus du tout fonctionné. Mmh. Il y a eu un moment où, et je pense que le moment clé, ça va être les élections municipales de 2020, où à ce moment-là, si le gouvernement est assez en dynamique, il peut y avoir des alliances avec les maires, rentrer dans les équipes municipales et faire tout un vivier. Si en revanche, le gouvernement reste aussi isolé, sa politique aussi incomprise, beaucoup d'élus vont se replier et vont pas pactiser avec La République En Marche. Et là, tout le vivier va s'assécher. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Giscard, qui, au moment de son septennat, avait essayé de constituer une majorité giscardienne et qui, finalement, avait été rétrécie par les deux bouts, à la fois par une gauche qui revenait à l'offensive et un RPR qui ne voulait absolument rien lui céder. Et donc, l'enjeu, vraiment, et c'est pour ça que le remaniement est quand même important, c'est que Emmanuel Macron dit « Je continue de marcher sur mes deux jambes, mon assise politique, c'est En Marche, et maintenant, il faut le faire vivre. »
Ce que vous dites, c'est que l'équilibre qu'il a voulu conserver, c'est ça qui tient la majorité En Marche.
Absolument.
Au fond, en fait.
Et c'est ce qui fonde finalement la légitimité d'Emmanuel Macron. Au fond, c'est son électorat du premier tour, où il y avait beaucoup de gauche et du centre droit. Et donc, s'il s'échappe de ça, il tombe soit à droite, soit nulle part. Et c'est le grand risque des années qui viennent, c'est que si la politique ne produit pas suffisamment de résultats, la dynamique En Marche, qui a fondé quand même la campagne présidentielle, va beaucoup se tarir.
Estelle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, Estelle, on vous écoute.
Merci. Voilà, je voulais intervenir, mais concernant Didier Guillaume, qui va devenir le ministre de l'Agriculture, je me posais juste la question de renouveau, puisqu'il me semble que, en tant que président du groupe socialiste, il avait voté contre l'interdiction du glyphosate. Et donc, du coup, je me demande juste le renouveau qui est prôné par Macron, est-ce que, finalement, c'est une histoire perdue d'avance?
Alors, le switch, si je peux dire, entre travers avec lesquels ça s'était plutôt mal passé et Didier Guillaume, Yael Gauz.
Didier Guillaume, c'est un peu aussi la surprise du remaniement, parce que on sait qu'Emmanuel Macron voulait aller chercher aussi des prises de guerre chez les socialistes, mais quelle est la plus-value politique de Didier Guillaume? On peut se poser la question. Il connaît les questions agricoles, c'est sur la compétence, d'accord, mais il n'est plus socialiste depuis longtemps. Depuis un an, il avait fait la campagne de Manuel Valls pour la primaire et puis après il a rejoint Emmanuel Macron. Et ensuite, il y a eu ce parcours assez étonnant de Didier Guillaume qui avait démissionné du Sénat pour vouloir piloter le consortium qui gère la Coupe du Monde de rugby 2023. Et puis il a découvert quoi, Didier Guillaume? Malheureusement que ce poste-là ne serait pas rémunéré. Et il est revenu au Sénat, il a réintégré le Sénat, le groupe RDSE, et le voilà maintenant propulsé ministre de l'Agriculture. Le sens politique de cette nomination-là est assez difficile à lire. En tout cas, la prise de guerre ne paraît pas du tout évidente à gauche.
Jérôme Jaffré?
Oui, un mot sur les élections. Françoise Fressos nous parle beaucoup des municipales. Parlons aussi des européennes. Ce remaniement a une signification politique très claire pour les européennes. C'est que nous aurons une liste commune. République En Marche, Modem et Agir, les juppéistes sont... Et donc, finalement, nous allons beaucoup vers le centre droit dans cette opération des européennes. D'où l'importance de garder un équilibre apparent dans le remaniement.
Mais apparent.
Pour éviter déjà de dire ça, parce que l'arrivée de Franck Riester comme ministre de la Culture, les déclarations récentes d'Alain Juppé, qui a donné une interview très importante au point où il a déclaré que c'est passé étonnamment inaperçu dans la presse, je n'en reviens pas d'ailleurs, parce que c'est une information, qu'il n'avait pas repris sa carte du Parti des Républicains, qu'il ne la reprendrait pas.
Et il a fait une conférence avec Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, à Bordeaux, en Gironde, pour les consultations citoyennes en vue des européennes.
Voilà, et dans cette interview du point, en plus, il développait une thématique sur l'Europe qui est tout à fait compatible, évidemment, avec le fait d'aller aller pour les jupéistes en marche. Et Jean-Pierre Raffarin lui-même a abandonné le discours d'une liste autonome, d'une liste différente. Donc on a une opération politique qui se prépare très clairement, qui va être République en marche, Modem, jupéistes sont ensemble pour les européennes, et en même temps de gauche et de droite se déséquilibre de plus en plus. Pour Didier Guillaume, j'ajouterais une petite méchanceté, me semble-t-il, dans le macronisme.
Il y en avait déjà beaucoup, là.
Non, pas de ma bouche, du macronisme. C'est que Didier Guillaume est très proche de François Hollande, que François Hollande n'arrête pas de dire des horreurs sur Emmanuel Macron, et qu'Emmanuel Macron lui dit, ben, tes amis, je les prends quand je veux.
Éric, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à vos invités.
On vous écoute.
Oui, moi j'avais une question au-delà de ce remaniement qui pour moi, finiment, n'en est pas fondamentalement un vis-à-vis de la politique, mais je me demandais si finalement il ne faudrait mieux pas revenir à un septennat pour le président de la République avec la possibilité d'avoir des élections législatives en décalage avec l'élection présidentielle, ce qui permettrait effectivement aux électeurs de dire oui ou non à la politique du président de la République. Et on s'est aperçu que ce défaut de la cuirasse de la cinquième qui avait été qualifié comme tel, finalement n'en est pas un, puisqu'il est une respiration démocratique et qu'il permet donc aux électeurs de s'exprimer et non pas d'attendre des élections intermédiaires et de donner un message un peu biaisé aux européennes ou voire aux municipales pour tous les électeurs. Pour moi, cela me semblerait une bonne solution que de revenir pour moi sur cette révision constitutionnelle qui à l'époque avait que j'avais qualifié d'erreur. Voilà.
Merci Eric. Françoise Fressos, qu'est-ce que vous
alors,
en dites?
Alors, c'est vrai que au niveau de la respiration démocratique, on a plutôt envie d'être sur le schéma du septennat dans la mesure où la majorité parlementaire est beaucoup moins dépendante du président de la République et donc on a une respiration démocratique. Mais il faut quand même se souvenir de tous les débats qui il y a eu quand tout d'un coup la cohabitation, les deux cohabitations se sont installées. Et j'en parlais encore récemment avec un ancien Premier ministre qui disait écoutez quand même, les périodes de cohabitation, ça a été quand même très difficile pour la représentation de la France à l'extérieur et pour la tenue des réformes, ça a été quand même des périodes extrêmement compliquées. Donc le quinquennat, il vient quand même après deux cohabitations qui n'ont pas donné pleinement satisfaction. Et donc on est quand même à la recherche effectivement d'un système idéal. Et c'est vrai aussi que le quinquennat a énormément de défaut, en ce sens qu'il donne beaucoup de pouvoir au président de la République, mais il le fragilise aussi très vite.
Et on utilise aussi certaines élections à d'autres fins, effectivement, Éric a raison là-dessus, pour pouvoir donner des messages parce qu'on ne peut pas les donner différemment.
Absolument. Et du coup, il y a quand même une fragilité de cette fonction, où on voit que ça, pour Nicolas Sarkozy, pour François Hollande, pour Emmanuel Macron, au bout d'un an, vous commencez à avoir de sérieuses difficultés avec l'opinion et vous avez beaucoup de mal ensuite à vous refaire. Donc il y a une interrogation sur le quinquennat, mais revenir au septennat, attention quand même aux cohabitations.
Mais cela dit, effectivement, peut-être que les élus avaient du mal, et les gouvernements, du mal avec la cohabitation. Moi, j'ai le sentiment qu'on aimait ça, nous, justement, nous, les électeurs, je veux dire, de jouer à ce renversement, finalement, non ?
Oui, vous avez raison, les cohabitations...
On y a un peu pris goût à une période.
Les cohabitations étaient populaires dans l'opinion publique, en partie parce qu'elles donnaient le sentiment d'un partage du pouvoir. Un président de droite, un premier ministre de gauche, un président de gauche, un premier ministre de droite, et puis chaque camp avait le sentiment d'être représenté au sommet de l'État. Mais ce qu'on a vu arriver quand même, par exemple, en 2002, à l'issue de 5 ans de cohabitation entre Chirac et Jospin, c'est-à-dire, d'abord, vous voyez finalement les deux leaders qui, théoriquement, s'étaient entendus pendant les 5 ans de la cohabitation. Vaste hypocrisie. Ça se termine dans un match de boxe absolument épouvantable. Ensuite, comme le disait Françoise, malgré tout, un certain nombre de choses ne se font pas dans la période de la cohabitation, qui, quand elle est interminable, comme 5 ans, et bien à l'arrivée, il y a eu Jean-Marie Le Pen qui s'est qualifié par surprise alors que les Français ne s'attendaient pas du tout à ça et même ne le souhaitaient pas à l'époque. C'est pour ça qu'on a fait à l'époque le quinquennat. Alors en revanche, ce qui s'est ajouté, c'est l'inversion du calendrier électoral. C'est-à-dire qu'on a pris la réforme, Jospin est allé jusqu'au bout en changeant le calendrier électoral et en plaçant les législatives dans la foulée de la présidentielle. Ce qui fait que maintenant, ce calendrier fait que vous avez 5 ans complètement bloqués. Ou si le président maîtrise sa majorité, ça n'était pas le cas tout à fait de François Hollande, mais c'était parfaitement le cas de Nicolas Sarkozy et c'est encore le cas d'Emmanuel Macron. Du coup, vous avez 5 ans bloqués complètement.
Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir. Bonsoir France Inter, bonsoir Fabienne et bonsoir à tous.
Bonsoir à vous.
Alors écoutez, moi je suis juste un petit peu agacé par ce chapitre qui vient de se clore. parce que je pense que c'est plus un agacement qui vient en fait du temps médiatique, quoi. Cette espèce d'impatience de dire, voyez, tous les jours, on nous dit matin, midi et soir, on n'a toujours pas de gouvernement. Où est-ce que c'est marqué?
Ça, c'est pour moi.
Qu'un gouvernement, où est-ce que c'est indiqué dans la Constitution ou dans l'agenda politique qu'un gouvernement se nomme en 2 jours? Pour une fois qu'un gouvernement prend le temps, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors après, je vous fais le pari que si le gouvernement avait été nommé en 2 jours, on aurait dit, voyez, voilà, ça se passe comme ça, le gouvernement a fait preuve de précipitation. Voilà. Bon, alors la deuxième chose qui m'a profondément frappé, c'est que on nous dit, mais alors comment ça se fait, il n'y a pas de changement de cap. Mais pourquoi voulez-vous qu'un remaniement influe un changement de cap? On fait un remaniement ministériel parce qu'on a des ministres qui partent. On a élu un président, oui ou non? Est-ce qu'il a été démocratiquement élu, oui ou non? Alors, moi, je suis absolument pas étonné. Alors après, c'est pas partisan, hein. Qu'on soit d'accord ou pas avec les options de Macron, ça, c'est une chose. Mais le fait qu'on ait nommé et élu un président pendant 5 ans sur un programme, c'est une chose. Je vois pas pourquoi le renouvellement de ministre, parce qu'il y en a certains qui démissionnent, le ferait changer de cap. Moi, ça me choque pas du tout, pardon, mais je suis un peu agacé par cette espèce de dire tout ça pour ça.
Michel, merci beaucoup. Yaël, je vous ai vu lever la main d'abord
oui,
sur le temps médiatique.
Par... Oui.
Le maître des horloges, c'est pas vous, Yaël.
Non, c'est pas moi du tout. Non, mais c'est surtout que si vous êtes un auditeur fidèle de France Inter, vous aurez remarqué que depuis 10 jours, on est vraiment, vraiment, vraiment très mezzo voce sur le name dropping. J'aime pas les anglicismes, mais la façon de faire des sujets dont on ne sait pas, on n'est jamais sûr du casting final. Et on donne les noms, on égrène les noms au fil des journaux, matin, midi et soir, en disant c'est lui qui tient la corde, mais non, c'est plus lui, c'est l'autre. Et donc le mécano, ce sera ça. On le fait pas.
Mais faut pas qu'on
Inter.
Se dédouane, nous.
On le fait pas.
Faut pas. Oui,
franchement,
je
l'ai pas fait.
On ne le fait pas.
Je suis garant.
Mais je veux pas qu'on se dédouane non plus intégralement de ce temps médiatique qui est différent du temps politique. Je pense que.
Et l'autre réponse, c'est parce que n'oubliez pas ce JDD d'il y a 8 jours. Je suis désolé. C'était un JDD porté, qui incluait dedans des réflexions profondes. Richard Ferrand le premier, proche d'Emmanuel Macron, président de l'Assemblée, qui portait un message, qui était une bande-annonce de ce qui devait arriver et qui n'est pas arrivé. Donc nous, journalistes, on a juste observé ce fait politique majeur d'un remaniement très fort, second souffle qui nous était annoncé, avec même des marcheurs qui nous disaient, vous allez voir, ça y est, on va enfin casser la baraque, on va enfin sortir de la nasse, de l'affaire Benalla, c'est un nouveau départ. Donc nous, on attendait aussi, on se mettait au niveau de la bande-annonce.
Françoise,
de fait, il y a eu un débat à l'Élysée pour savoir quel sens donner à ce remaniement. Est-ce qu'il fallait permettre à Édouard Philippe de faire une déclaration de politique générale et de symboliser d'une certaine façon le nouvel élan, ou est-ce qu'il fallait rester dans la continuité de la politique? Je pense que cette interrogation est parfaitement légitime parce qu'on est à un moment du quinquennat clé que d'ailleurs tous les anciens présidents de la République ont connu, c'est-à-dire que vous avez été élu sur la promesse que, grâce à votre élection, les choses allaient changer, et assez vite. Et Emmanuel Macron a notamment dit la confiance va revenir. Je vais faire une politique pro-business avec le retour de la confiance. Et il a adjoint cette promesse de tout un discours sur la scène européenne, en disant « je vais aussi être celui qui va réformer l'Europe ». Au bout d'un an et demi, on voit que la croissance est là, mais pas terrible, que le chômage n'a pas reculé, et qu'au niveau européen, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui avait été annoncé, puisqu'on a une poussée populiste très forte. Par conséquent, on est à un moment du quinquennat où les Français attendent des résultats, et où une partie de la majorité commence à s'inquiéter en disant « il y a des échéances électorales qui arrivent et on n'est pas trop sûr ». Et ce qui est frappant aussi, c'est que cette équipe ne veut pas s'engager sur une date à laquelle ça ira mieux, parce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé avec François Hollande. Vous verrez l'inversion de la courbe du chômage.
Donc, François, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Je vous en prie.
Parce que souvenez-vous de l'interview, la grande interview TF1 France 2 d'octobre 2017. Emmanuel Macron dit « je vous donne rendez-vous dans 18 à 24 mois pour les résultats ». C'est moins grave, mais c'est presque l'erreur qu'avait commise Hollande en septembre 2012 quand il dit « j'inverserai la courbe dans un an ».
Il va être jugé
à l'aune de ce timing-là.
Sauf si vous permettez,
on est
pour dire
18
un mot,
mois, ça y est, on y est.
Pour dire un mot, l'erreur complète de Hollande, c'était non seulement de donner un rendez-vous, mais en plus de le faire sur un chiffre, oui. Quelque chose. Tandis que Macron, il a dit « pour voir mes résultats, 18 à 24 mois ».
Mais on y est, 18 mois, c'est maintenant.
Oui, mais comme il n'a pas dit « c'est sur un chiffre que tout se joue », ça lui permettra de tenir un discours. Donc c'est quand même moins net que l'erreur, me semble-t-il, qu'a faite Hollande.
Même, c'est qu'on est dans un brouillard et on ne sait pas au fond si sa politique va marcher. On voit qu'il a été aussi sur un discours très libéral dans un environnement international qui l'est beaucoup moins, où on voit la montée du protectionnisme. Et donc on se dit, est-ce que ce président de la République va ou non réussir? Et il y a un débat qui traverse la majorité, où certains s'impatientent, s'inquiètent. Et donc c'est normal aussi qu'il y ait cette interrogation sur faut-il ou non un changement de cap. Parce qu'on est à un moment important du quinquennat où les résultats promis ne sont pas encore arrivés.
Sauf que le changement de cap, on n'est pas parti pour là. En tout cas, ce serait peut-être compliqué pour Emmanuel Macron d'annoncer aujourd'hui un changement de cap.
Oui, mais moi, je pense
politiquement
que,
extrêmement compliqué.
Je pense que
c'est
sa décision,
inimaginable même.
C'est inimaginable. Vous changez de cap quand vous avez pris une grande rincée électorale.
Même à minima, je dirais.
Et d'ailleurs, dans la dernière interview qu'il a donnée, il a beaucoup minimisé le résultat éventuel des européennes. Donc, c'est même pas sûr que si jamais les européennes sont pas bonnes pour lui, il change de cap.
Il nous reste 15 secondes. Est-ce que le départ de Nyssen, Mézard, Travers, c'était surtout, il y a vraiment 15 secondes, un changement, une erreur de casting au fond, en fait, de ces 18 derniers mois?
Des ministres qui ne sont pas, imposés dans leur ministère et qui n'ont pas, grandi comme Agnès Buzyn, par exemple, ou Jean-Michel Blanquer.
Allez, il faut pas qu'on perde de temps. On attend une déclaration pour dans un instant. Merci beaucoup. Merci à tous et portez-vous bien.